CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Le Japon et ses arts martiaux s'invitent au gymnase de cordes sur ciel où vont résonner des déplacements, des frappes et peut-être quelques kiai, ces cris qui accompagnent certaines pratiques des arts martiaux japonais. Nous allons découvrir aujourd'hui deux disciplines encore assez méconnues, le kendo qui est l'art du sabre il me semble et le jodo qui se pratique avec un bâton. Et pour nous guider dans cet univers, un pratiquant et enseignant expérimenté qui est installé ici sur notre territoire, il s'appelle Michel Issinjou. Il est 6e dan en kendo et en jodo. Alors, derrière les images de samouraïs et de combats que l'on peut avoir en tête, qu'est-ce que l'on apprend réellement dans ces disciplines et surtout, qu'est-ce que ces pratiques peuvent changer dans notre quotidien? Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur CFM Radio. Michel Issinjou, je peux t'appeler Sensei?
Oui, mais c'est une dénomination japonaise qui veut dire celui qui arrivait avant, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et au Japon, c'est très fréquent d'appeler sensei tous ceux qui ont une expérience et qui font, ou pas d'ailleurs, de professorat. Donc, c'est un titre très honorifique en France, en Europe, mais c'est beaucoup plus commun au Japon. Donc, oui, sensei ou Michel, ça me va très bien. Moi, je ne suis pas très dans cette courant-là de le maître et les honneurs qui vont avec. Moi, je suis plutôt sur la pratique et sur le transfert et le partage.
Commençons par présenter de quel art martiaux il est question ici quand on parle de kendo et de jodo, c'est quoi exactement?
Voilà, alors il y a le suffixe do. Do. Donc
ouais,
le do, c'est la voie. Le do, la voie, c'est un chemin. C'est un chemin pour s'accomplir, pour se connaître soi-même et pour se transformer. Et ensuite, jo et ken, ce sont des vocables pour exprimer qu'il y a un bâton ou un sabre. Et effectivement, ça vient du travail qui a été fait pendant de longs siècles, puisqu'il faut savoir que le Japon a connu quand même une ère de paix de 2 siècles et demi. Et pendant cette ère de paix, les samouraïs, qui étaient la caste des guerriers moyenâgeux, si on peut dire, en comparaison avec notre période, étaient un peu inoccupés. Et donc, ils ont perfectionné l'art du bâton ou du sabre. Et ils l'ont perfectionné vraiment comme la culture japonaise sait perfectionner un certain nombre de choses, et on le voit dans d'autres matières. Donc, ils ont vraiment été très, très loin dans l'apprentissage. Et il y a aussi une dimension qui était spirituelle, puisqu'il n'y avait pas de motif de se battre. Il n'y avait plus de guerre. Il n'y avait plus de guerre à l'extérieur. Il n'y avait plus de guerre entre les clans de samouraïs. Donc, ils ont perfectionné la spiritualité de la pratique, du chemin, pour en fait se connaître eux-mêmes. Et donc, ils sont passés d'un concept d'un sabre qui tue à un sabre qui donne la vie. Ça s'appelle Katsujiken. Et donc, c'est de ce travail-là, de ces recherches-là, que sont nés au début du XXe siècle le jodo et le kendo. Alors, le kendo en premier, puisque c'est le premier jutsu après le judo, puisque le mot do, en fait, a été employé en premier par Jigoro Kano quand il a créé le judo.
Le créateur du judo.
Il avait une ambition pédagogique, il voulait faire un système de formation des Japonais pour pouvoir intégrer l'ère moderne, puisqu'il y a eu l'ouverture à l'ère Meiji, et il voulait bénéficier des enseignements ancestraux, anciens, mais il voulait apporter une méthode d'éducation des hommes et des femmes au Japon pour qu'ils puissent être complètement dans la société qui s'ouvrait à eux, qui était une société moderne, donc avec un changement radical des rapports de pouvoir dans la société. Et donc ensuite, le kendo a repris un peu ce flambeau-là. Mais c'est vrai que le mot do était utilisé, mais peu avant la création du judo, et donc on doit bien reconnaître à Jigoro Kano la création
de ce mot. Bon, alors, quand on parle de kendo, est-ce qu'on commence avec un vrai sabre? C'est plutôt un bambou, non?
Non, entre le kendo et le jodo travaillent avec des sabres en bois. Alors, il y a le boken, qui est la reproduction d'un katana, un sabre qui coupe, mais qui est en bois, pour éviter les accidents, tout simplement. Et donc, dans les écoles anciennes, pendant ces deux siècles et demi de paix, il travaillait énormément avec des sabres en bois, mais qui est un bois dense, un peu lourd, et qui donc était un peu problématique, parce que effectivement, quand on touchait son adversaire partenaire, on pouvait le blesser. Donc, assez rapidement, il y a eu dans chaque école des volontés de travailler avec un engagement plus grand et donc moins de retenue. Et donc, ils ont inventé le shinai. Et le shinai, ce sont quatre lames de bambou qui présentent une certaine souplesse, mais
en la fois rigide quand même. Voilà. Ouais.
Et donc, ils ont inventé la protection et le shinai. On ne sait pas si c'est le shinai qui a été inventé avant la protection. On peut penser que c'était la protection qui a été inventée, parce que se battre avec des bouts de bois et aller au contact, c'est sûr que ça faisait des blessures et c'était dangereux. Donc, après les protections, ils ont dû inventer le shinai et des écoles se sont un peu spécialisées. Et ensuite, quand le kendo a été créé, le kendo, c'est en fait une volonté d'harmoniser toutes les écoles. C'est-à-dire, un peu comme le judo avec le jutsu, de récupérer le savoir-faire de centaines d'écoles.
Et de centraliser
et d'en
un
faire
peu tout ça.
Un système qui soit possible à exporter dans les écoles, puisque la volonté, lors de la création du kendo, c'était de faire une discipline qui soit obligatoire dans les lycées, les collèges, de manière
ça
à former.
Ça fait partie de la formation d'un être humain,
voilà,
d'un citoyen.
Exactement.
Quoi, ouais.
Exactement.
Est-ce qu'on on a toujours l'arme à la main lorsqu'on pratique le kendo ou le judo lors des cours?
Oui. Parce qu'on a des exercices de préparation qui sont des déplacements, d'utilisation de ses bras pour pouvoir couper, puisque c'est quand même dans ce sens-là qu'on utilise le sabre, c'est de couper l'autre. Et donc, on utilise, alors, sous une forme maintenant avec le Boken, c'est des katas. C'est-à-dire que ce sont des formes de combat anciens, scénarisées, de manière à pouvoir travailler des notions de déplacement, de distance et d'instant. Puisque c'est en fait ces trois choses-là qui vont intervenir. On utilise très peu la force, en fait, dans les dos, parce qu'on utilise plutôt la posture. Et comme c'est une arme tranchante, il n'y a pas besoin de rajouter de la force musculaire, ce qui fait que ce sont des disciplines qui sont accessibles à tout le monde. Mm-hmm. Au Japon, fréquemment, le kendo se commence à 3 ans et demi, 4 ans et demi, et se pratique jusqu'à 99 ans, jusqu'à sa mort. Donc c'est une pratique qui ne nécessite pas une forme physique extrêmement forte, même s'il peut y avoir des entraînements rigoureux, vigoureux, mais on travaille plus sur la posture et l'utilisation du déplacement, du centre de gravité, ce qui fait que ce soit le judo ou le kendo, c'est accessible à pratiquement
tous les âges. Toutes les conditions.
Voilà.
Quoi.
Alors, moi, je fais plutôt des cours à partir d'adultes, parce que c'est vrai que pour les enfants, alors les 11 ans, 16 ans, il faut quand même avoir un groupe spécial, une pédagogie spéciale. Et en dessous de 11 ans, il faut que ça soit ludique. Et le problème alors du kendo, ou plutôt du judo, c'est que c'est quand même des matières où il faut réfléchir, où il faut être rigoureux, strict. Et ça peut être un peu rédhibitoire pour les jeunes. Le kendo, moins, parce qu'il y a un engagement. Donc très vite, on peut mettre une armure. Et on rentre dans le vif du sujet, c'est comment toucher, frapper, couper l'autre. Alors que dans l'objectif, un peu, c'est de faire des combats libres, ça s'appelle des jigeko. Et donc les deux veulent faire la même chose. Il y a quatre frappes dans le kendo, et les deux veulent couper, frapper l'autre. Et donc il faut gérer l'autre. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant dans les arts martiaux de cette nature-là à deux, c'est qu'il y a une altérité, et qu'il faut prendre en considération l'autre. Et pour prendre en considération l'autre, il faut bien se connaître soi. Donc il faut travailler d'abord sur soi, il faut travailler seul. Et c'est pour ça que dans les deux disciplines, il y a des exercices qu'on fait seul pour réfléchir à ce qu'on fait. Et puis après, on les met en pratique face à quelqu'un. Alors soit face à quelqu'un qui vous fait travailler, et donc il faut comprendre, sentir, ressentir. Et puis après, face à quelqu'un qui veut faire la même chose que vous. Et là, on est dans le combat libre, un peu comme le randori au judo. Et il y a des difficultés, c'est qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire. Et donc l'autre vous apprend énormément.
Michel Issingeau, maître de judo et de kendo, ici à Cordes-sur-Ciel, au gymnase, hein, où il y a 4 cours qui sont prodigués chaque semaine de judo, de kendo. On reviendra sur les informations pratiques dans un instant. Mais ce qui est intéressant aussi, pour aller un peu dans la continuité de ce que tu nous expliquais, c'est que cette discipline demande énormément de concentration. Et est-ce que cette capacité à être attentif, à observer son partenaire, à contrôler ses mouvements, finit par avoir des effets dans notre vie quotidienne?
Ben, c'est un peu l'objectif, c'est que c'est à la fois une voie de développement, mais c'est une voie de transformation. Et moi, il me semble, c'est mon opinion très personnelle, c'est qu'on se rend compte qu'on ne sait pas faire les mouvements parce que la vie, le sport, nous a appris à faire autre chose, à utiliser notre corps autrement. Et là, il faut l'utiliser dans un cadre qui est très précis pour avoir un objectif. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sans y penser. Et l'objectif justement des dos, c'est de penser seconde après seconde à ce qu'on fait exactement. Et là, on s'aperçoit que c'est difficile et il faut être humble. Notre corps, nos muscles, on ne sait pas les mouvoir, les commander aussi aisément qu'on peut le penser intellectuellement. Donc c'est ça qui fait une transformation et qui, à mon sens, peut être utile dans la vie courante, c'est-à-dire effectivement de savoir que ben, on ne sait pas vraiment tout et que quand il y a une personne en face de soi, elle sait, elle, quelque chose parce qu'elle a une autre culture, une autre expérience et que d'abord, il faut partager peut-être l'expérience, la culture pour connaître l'autre. Et à ce moment-là, il y a effectivement un dialogue qui peut se créer. Il y a un peu. Et donc ça, dans la vie courante, je pense que ça peut être très utile.
Et justement, en parlant de culture, il y a aussi la dimension culturelle parce qu'au-delà de l'art martial, j'imagine qu'on s'ouvre un peu plus au Japon, à ses rites, salutations, respect voilà. Et autres lorsqu'on vient dans un cours.
Oui, il y a toute une part d'introduction à la culture japonaise avec son étiquette. Donc, on parle japonais parce qu'on a des consignes, des commandements qui se font en japonais. Et puis après, il y a des notions. Et la langue japonaise, avec les kanji, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'un mot, pour nous, signifie beaucoup de choses. Un kanji, ça signifie un concept. Donc, quand on dit quelque chose en japonais, il faut être très prudent parce qu'il faut connaître le contexte. Et donc, on peut approfondir effectivement la connaissance de la culture japonaise à partir des arts martiaux, à partir du kendo ou du judo, justement par ce biais-là et par cette complexité-là.
Tu pratiques ces disciplines à un niveau très avancé. Hein, je l'ai dit, 6e dan à ta ceinture noire en judo et en kendo. Ça représente combien d'années de pratique là ?
J'ai commencé en 1983 et 87. 83 pour le judo et 87 pour le kendo.
Bon, mais il y a eu d'autres arts martiaux avant ?
Oui, j'avais essayé l'aïkido, le iaido, qui est l'art de dégainer le sabre, le katana, donc qui est plus lié directement au vrai sabre. Et puis, je me suis passionné pour ces deux arts martiaux. Or, j'ai eu une interruption pour cause de santé, si on peut dire. Et puis, j'ai repris. Donc, en tout, ça fait 30 années de pratique et assez régulière. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit, comme pour beaucoup de disciplines, il faut pratiquer tous les jours. Il faut pratiquer le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Et puis, tout d'un coup, on sait quelque chose. Le corps, l'esprit,
s'imprègne.
Moi, je compare un peu à la musique. À la musique, on peut faire de la musique, puis à un moment donné, on fait plus de la musique. On est la musique qu'on fait. Et c'est un peu cette notion-là qui me plaît dans le kendo et le judo, c'est qu'effectivement, on fait plus quelque chose, on est ce qu'on fait.
Et donc, pourquoi pas l'escrime ? Parce que les armes sont quasiment sensiblement pareilles, les vêtements aussi, parce que la protection pour le kendo, c'est à peu près le même casque, etc. Pourquoi pas l'escrime alors ?
Oh ben là, c'est un peu le hasard. C'est vrai que d'origine, j'étais gymnaste et je cherchais une activité que je pouvais faire toute ma vie. Et donc, c'est pour ça que l'aïkido m'a attiré, parce que je me suis dit, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas.
C'est dans la souplesse aussi,
et puis, beaucoup. Et puis il n'y a pas l'aspect sportif qui était l'aspect compétition, parce qu'en gymnastique, j'ai un peu vu les dégâts que ça pouvait faire sur des jeunes gymnastes, et l'aspect compétitif est trop contraignant. Alors l'aspect compétitif, au sens où on le voit dans les grandes manifestations sportives. Après, quand on fait du sport pour soi, on converge, on fait à peu près la même chose. Donc c'est pour ça que je me suis tourné plus vers l'aïkido et vers les dos. Puis après, la culture japonaise, j'ai beaucoup lu de romanciers japonais, j'ai beaucoup apprécié la cuisine japonaise. Donc, effectivement, il faut avoir une inclinaison vers la culture et le Japon, après l'Asie en général, pour pouvoir s'orienter vers le kendo ou le judo. Alors, où on l'a, où on la découvre et on se la forge soi-même.
On peut venir découvrir tout ça ou poursuivre sa pratique hein, à Cordes-sur-Ciel, c'est au gymnase, hein, les jeudis et les vendredis. Tu nous précises les horaires.
Voilà, donc on fait une heure de judo à partir de 17h jusqu'à 18h, et puis après une heure et demie de kendo de 18h à 19h30. Et aujourd'hui, le jeudi et le vendredi, ça se passe au gymnase de Cordes-sur-Ciel, parce que la salle de loisirs de la Mazière n'étant plus disponible au public, on s'est replié. Mais par contre, pour le kendo, c'est vrai qu'il nous faut une surface qui soit en bois, parce qu'on frappe du pied. On exprime l'objectif du kendo, c'est l'unité du ki, ken, tai, no, uchi, c'est-à-dire le ki, le ken, le tai en un seul temps. Le ki, c'est l'énergie. Donc, c'est exprimé par le kiai, donc on crie le nom de la frappe, de la coupe qu'on fait. Le ken, c'est qu'on frappe au bon endroit avec la bonne partie du sabre ou du shinai, qui ken tai. Et le tai, c'est le corps. Et au kendo, le corps, on le marque en frappant du pied. Donc, il faut être assez... On tape pas le sol avec le pied, on se fait pas mal. On fouette un peu avec la plante du pied, le sol, et ça produit un bruit. Et quand il y a l'unité de ces trois phénomènes, eh ben, on est effectivement dans un état interne d'unité. Et c'est ça qui est en fait l'objectif qu'on recherche, d'être dans une espèce... c'est pas le satori, mais c'est une espèce d'état qui est très très particulier et très agréable.
Plénitude, ça coûte 55€, licence comprise. On vient dans une tenue ample dans laquelle on est à l'aise et peut-être plus tard, si on le souhaite, on va investir dans la vraie tenue, un peu comme celle du aïkido, hein, le kendogi,
oui, akama, kekogi, voilà, du pantalon.
Ouais. Certificat médical obligatoire ou pas?
Oui, il faut un premier certificat d'aptitude pour identifier s'il y a des difficultés. Après, il y a une possibilité d'adapter la pratique suivant peut-être des handicaps que les personnes peuvent avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un certificat médical, effectivement.
Jeudi et vendredi, en fin de journée au gymnase de Cordes-sur-Ciel, on peut te contacter aussi, Michel Issinjou, par email fudokansurciel@gmail.com. Merci beaucoup d'être passé nous en causer.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli.
CFM. CFM Radio.